J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Nous sommes ensemble pour une heure d'échange et de partage dans parole aux auditeurs autour d'un sujet très important, à savoir l'évaluation du projet des actions d'appui aux ex-combattants du conflit Kamuina-Sakou et communautés dans le cadre des démobilisations spontanées par des initiatives de réinsertion socio-économique et des justices transitionnelles dans les provinces du Kasaï.
Que pensez-vous de ce projet? Mesdames, Messieurs, vous avez la possibilité de vous exprimer sur ce sujet en direct dans cette salle, car l'opportunité vous est offerte, et tout cela sous vos applaudissements, bien sûr. Alain Goy assure la mise en ordre de ce magazine réalisé par Richard Junior Kamunga et François Kadima. Jonathan Fonani assure la prise de vue et la gestion des plateformes digitales, et tout cela sous vos applaudissements, bien sûr. Et quant à moi, Pierrot et la main, c'est un réel plaisir de vous servir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et avant d'aller plus loin, je vais vous présenter les invités de cette émission. J'ai à ma droite M. Patrick d'Oliveira, chef de bureau du programme des Nations Unies, ici dans la ville de Kananga. M. Patrick d'Oliveira, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, c'est M. Georges Emaka, officier des droits humains en charge de la justice transitionnelle au bureau conjoint des Nations Unies pour les droits humains. Nous avons aussi à ma gauche, extrême gauche, Maître Vincent Kayembe, qui est le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Et à mon extrême droite, Maître Ndaye de la Fondation Kadima et Madame Monique Zeba de la Fondation Kadima. Et je voudrais que nous puissions acclamer très fort Et nous commençons notre émission tout à l'heure avec le programme des Nations Unies pour le développement. C'est juste M. Patrick d'Oliveira. Bienvenue dans Parole aux auditeurs et merci d'avoir accepté d'échanger avec ce public merveilleux de la ville de Kananga.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin. Ce n'est pas un événement qui arrive tous les jours, mais nous sommes à point nommé dans la région du Grand Kasaï. Et j'aime bien appeler la région du Grand Kasaï, mais beaucoup plus ici précisément à Kananga, où nous avons eu la chance de lancer plusieurs initiatives dans l'esprit de reconstruire la paix jadis qui était de mise dans cette contrée du pays, qu'on a toujours reconnu comme une région pacifique, mais pour tout ce que vous savez, a eu un événement très malheureux qui a vraiment décimé toute la structuration de la communauté du Grand Kasaï. Et nous sommes très heureux d'avoir mis en œuvre un certain nombre d'outils, d'avoir mis en œuvre un certain nombre de projets qui ont réellement produit des résultats dont on va parler aujourd'hui. Et je suis fier d'être avec vos côtés et en face de cette communauté qui n'a épargné aucun effort pour accompagner aussi bien la société civile que les communautés pour accompagner tous ces efforts de reconstruction de la mer.
Mais à quoi consister d'une manière brève ces projets qui ont été mis en place?
Oui, je sais que de façon classique, ce qu'on peut dire, quand on a vécu un certain nombre de descriptions de la situation des communautés telles que je l'ai dit, c'est très important pour le système des Nations Unies et la communauté internationale de venir vraiment secourir à la réponse de cette communauté qui nous demande que la paix. Donc on a mis en place, il faut le dire, que nous avons eu quand même l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Et je peux, sans me tromper, dire 80 à 90% des efforts de consolidation de paix qui ont été faits dans cette région ont été soutenus par ce fonds. Et je dis aussi qu'on a environ eu 7 projets avec des objectifs différents, des agences différentes, que ce soit avec les ONG internationales, les ONG locales, les agences du système des Nations Unies, qui ont travaillé sur environ 7 ou 8 projets depuis 2016. donc disons 2018, 2019 jusqu'à présent, et qui ont contribué dans une certaine mesure à travailler sur la cohésion sociale, à redonner un certain nombre de crédits pour la réconciliation qui a permis, in fine, de relancer dans une certaine mesure la cohésion sociale, la réintégration socio-économique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces genres de conflits, quand ils passent, ils laissent forcément derrière des destructions massives, des moyens de subsistance, des moyens de production économique. Donc il y a eu de grosses actions qui ont été développées en matière de réintégration socio-économique. Nous avons travaillé aussi sur les solutions durables, comme vous étiez en train de parler. On a eu environ 400 000 personnes qui se sont déplacées d'une manière ou d'une autre, que ce soit les retournés, les réfugiés, les déplacés internes. Donc il a fallu travailler sur les questions de solutions durables, qui non seulement nous a permis de traiter la question de reconstitution socio-économique après le conflit, mais de permettre à nos concitoyens congolais qui ont été d'une certaine façon, disons, perturbés par ces mouvements forcés, de se retrouver dans leur communauté d'origine et de relancer un certain nombre permettant de réintégrer de façon durable ces sociétés qu'ils avaient, ces communautés qu'ils avaient quittées. Donc globalement, de façon générale, en termes d'introduction, c'est ce que nous pouvons garder, sans oublier bien sûr qu'il ne peut pas avoir paix sans justice, sans reconstruction, sans
droits humains, au niveau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Alors, il n'y a pas paix sans justice. Quelles ont été les actions en termes de justice, parce que vous êtes chargé exactement de la justice internationale, quelles ont été les actions précises qui ont été posées au niveau du bureau conjoint des Nations Unies par rapport à la question de la justice dans le cadre de ces conflits?
Merci de me passer la parole. Je vous remercie déjà pour l'invitation, parce que c'est l'occasion pour le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de pouvoir partager l'expérience et partager également toutes les activités qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce vaste projet SSK. Je remercie également tous les invités, M. Patrick, pour son introduction qui a été vraiment brillante, qui a posé un peu les jalons de ce projet. Et pour répondre directement à votre question, il y a eu, après justement cette crise qui a eu comme effet corollaire la commission de violation des droits de l'homme, vraiment grave, avec beaucoup de populations vulnérables et puis beaucoup de victimes qui ont bénéficié également de toutes ces activités qui ont été mises en place dans le cadre de ce projet, justement sur le volet de justice transitionnelle. Et il y a eu pas mal d'activités pour répondre de façon vraiment précise, pas mal d'activités qui ont concerné la prise en charge de ces personnes à travers nos partenaires, parce que nous avons eu comme méthodologie de nous appuyer également sur les partenaires locaux pour pouvoir justement mettre en œuvre beaucoup d'activités au profit de ces personnes victimes et également au profit des ex-combattants. Je pourrais citer par exemple avec la Commission nationale des droits de l'homme des activités comme telles que la récolte de données quantitatives et qualitatives, des sensibilisations sur la justice transitionnelle, également des formations et sensibilisations sur les droits de la personne arrêtée dans diverses localités de la province. Nous allons revenir là-dessus. Et avec notre partenaire, la Fondation Kadima, nous avons également travaillé sur tout ce qui concerne les activités en faveur de la réinsertion des personnes démobilisées, des ex-combattants. Nous allons également revenir sur ces projets, ces activités qui ont eu beaucoup de résultats, qui ont eu un impact assez considérable auprès justement des populations bénéficiaires et avec justement avec ce gouvernement, tous les députés qui sont ici présents, nous allons revenir un peu sur tout cela pour pouvoir justement évaluer l'impact du projet sur toutes ces populations. Et maintenant, pour finir, sur le plan de la justice transitionnelle, proprement dit, nous avons également eu à beaucoup travailler et ce travail a également été ponctué par la mise en place de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation qui est à ses débuts en phase préparatoire de ces opérations. Donc nous allons également revenir sur toutes ces questions durant justement ces débats.
Voilà. Merci beaucoup, M. Georges. Je crois que M. Vincent Caillebé, coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme. M. Vincent, quand on parle de ces questions des justices, de réparation, pour les victimes et tout ça, on sait aussi que tout cela se déroule dans un contexte aussi où notre système judiciaire posait assez de problèmes. Est-ce qu'elle a été à la hauteur des attentes sur les atrocités qui ont été commises dans cette région?
Je voudrais débuter en blanc vous dire aussi merci, saluer tous ceux qui sont avec nous ici. C'est un moment juridique international qui atteste que lorsqu'il y a un conflit quelque part, il faudrait que l'on mette sur pied ce qu'on appelle la justice transitionnelle. C'est dans ce cadre-là. Mais parce que la justice transitionnelle vient non point pour qu'il y ait un gagnant ou un perdant, mais plutôt pour qu'il y ait quoi la recherche de la vérité, pour qu'il y ait quoi des poursuites pénales, parce que c'est un aspect purement judiciaire, pour qu'il y ait quoi, pour qu'il y ait des réparations, parce qu'il faudrait indemniser toutes les victimes, pour qu'il y ait quoi, qui est ce qu'on appelle garantie de non-répétition. Ça veut dire quoi, avec la justice transitionnelle, ce qu'on veut que ce qui s'est produit ne puisse pas encore se reproduire dans le jour d'avenir. C'est ça même la conception de la justice transitionnelle, mais avec la justice classique. Parce que là, il y en a qui vont certainement se livrer au triomphalisme. Mais avec la justice transitionnelle, ce n'est pas le cas. C'est qu'effectivement, on est dans la logique de la réconciliation.
Mais est-ce que rapidement, quand vous regardez la perception peut-être du public, hein, ceux qui sont dans la salle pour nous le dire, est-ce que même les limites de la justice classique, mais au niveau de la justice transitionnelle, pensez-vous que les réponses ont été vraiment à la hauteur des attentes?
Nous sommes en phase, parce que de toute façon, nous sommes au niveau de la recherche de la vérité. Avec la recherche de la vérité, cela s'est concrétisé par la mise sur pied de la commission provinciale vérité, justice et réconciliation. Et je crois que je voudrais saluer ici l'implication de tous les bailleurs, même de l'État congolais. Je vais saluer aussi l'implication du PNUD, du Bureau Congolais des Nations Unies, même du gouvernement provincial, parce qu'à un certain moment donné, comme vous le savez, les membres de cette commission ont été nommés par arrêté. Et je vais vous dire que j'ai le bonheur d'avoir conduit en amont le comité de sélection des candidats. Sincèrement, parce que là, j'ai joué un rôle important, ça c'est au nom de la CNDH. Mais je voudrais juste vous dire que avoir seulement la mission qui est assignée à cette commission, les résultats seront patents. Nous allons vivre tout cela, mais aussi avec l'accompagnement de la population, l'accompagnement des PETF, je vois déjà l'implication du Bureau des Nations Unies, du PUT, l'implication des autorités, parce qu'il faudrait qu'on arrive quand même à rendre justice aux victimes. Pourquoi rendre justice? Parce que, comme vous le savez, l'accès à la justice, c'est un droit fondamental. L'accès à la justice, c'est un droit inaliénable. Il faudrait que les gens se sentent
bercé lorsque ils vont devoir. Merci. Attention, maître, j'ai commencé avec la presse au même moment. Hein. Il risque de. Je les connais très bien parce qu'on a commencé ensemble quand on était trop jeune. Alors, monsieur Patrick Olivera, parce qu'on a parlé de réinsertion, est-ce que c'est une question d'argent, c'est une question d'accès à l'emploi, c'est une question de donner, de ramener les gens dans leur milieu, leur donner de la nourriture? C'est quoi exactement qui dans ce projet qui a été structuré sur le terrain, que ce soit pour les ex-combattants, mais aussi pour les communautés qui ont subi toutes ces affres?
Oui, merci pour la question. Je remercie et félicite les deux prédécesseurs, que ce soit mon collègue de CNDH et mon grand ami du CNDH, qui est vraiment un grand partisan de tout ce qui se passe, surtout du côté de justice traditionnelle. Et comme il dit, vous l'a dit, c'est pas quelque chose qui est simple, parce que c'est très complexe.
Oui.
Et ça se départit de la justice classique qui montre ses limites très difficiles de régler ces genres de dossiers qui vont juste à des dossiers de crimes graves, de crimes internationaux. Donc je pense que c'est un effort qu'il faut souligner. Revenons à votre question par rapport à la réintégration socio-économique. C'est quelque chose qui se fait même en absence de revenus. Mais quand on parle de réintégration socio-économique dans l'environnement du local, de règlement ou bien de consolidation de la paix, c'est très important de savoir que bientôt nous voulons mettre de renoncer l'intercollectivité qui existe entre les communautés. Donc c'est de remettre des individus et des communautés ensemble pour qu'elles retrouvent les échanges socio-économiques, anthropologiques même, qu'elles avaient avant les conflits.
Oui.
Donc la réintégration au service de la consolidation, la réintégration socio-économique, au service de la consolidation de la paix, pas du fait que
on essaie de mettre au sein d'une communauté ou entre deux ou trois ou quatre communautés des activités socio-économiques qui vont leur permettre de se remettre. Et la logique, elle est celle-là. Durant ces activités, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été détruites. Et c'est des infrastructures de valeur inestimable, de valeur socio-économique qui sont détruites, qui vont des ponts à des routes, il y a des édifices sans lesquels une vie socio-économique n'est pas faisable, etc. Et dans ce cas, la logique qui est utilisée, c'est de mettre les communautés, d'arriver à pacifier les communautés qui, j'avais été en conflit, de se mettre ensemble pour reconstruire tout ce qu'ils ont détruit elles-mêmes. Et c'est de là que naît cette volonté, cette capacité de se pardonner, de se remettre ensemble et d'accepter de relancer la vie telle qu'elle était avant le conflit. C'est vrai qu'on ne peut pas tout réparer, mais petit à petit, cette communauté se met ensemble. On a vu dans d'autres pays, dans d'autres continents, comment les pays se sont reconstruits après les guerres. Donc il s'agit tout simplement de remettre un certain nombre de financements pour relancer l'économie locale. Donc on a travaillé sur la relance de l'économie locale à travers l'implication, la création d'emplois temporaires qui permettent à ces communautés qui vraiment sont vulnérables après ce conflit de retrouver quand même des moyens de production qui leur ont permis de relancer l'économie, de relancer un certain nombre d'infrastructures. Donc il s'agit réellement d'injecter un minimum de capitaux dans le système et remettre les gens au travail de façon interconnectée.
Merci.
Pour leur permettre de relancer des activités. Ouais. On doit revenir sur des chiffres après pour étayer ces activités.
Alors, Maître Martin Daillé de la Fondation Kadima, alors, en quoi consiste exactement votre intervention en partenariat avec le PNUD, le bureau conjoint? Qu'est-ce qui a été fait exactement sur le terrain?
Bien, merci, monsieur le journaliste. Je voudrais ici commencer par saluer les co-débatteurs de cet avant-midi. C'est vrai que depuis 2016, la province du Kasaï Central a été secoué par les événements de ce mémoire. Alors, après tous ces événements, eh bien, la Fondation Kadima a commencé à réfléchir. À ce moment donné, on a constaté que les ex-combattants des camps de Nassau étaient abandonnés, délaissés à leur triste sort. C'est ainsi qu'on s'est dit. On veut mettre en place un projet qui puisse faciliter, n'est-ce pas, l'accompagnement de ces ex-combattants après toutes ces hostilités que notre province a connues. Exactement, un certain nombre d'activités a été mise en place dans le cadre du projet réinsertion socio-économique des ex-combattants de Kamanassawa. Et là, nous sommes allés dans la commune symbolique de Nganza, dans la commune symbolique de Nganza, et à côté, après les villages de Bamboula, la Fondation Kadima, dans le cadre de l'accompagnement de ces ex-combattants, a mis en place un groupe de ces ex-combattants et qui sont dans la carrière aujourd'hui des fabrications de briques cuites pour permettre à ces derniers de se retrouver dans la vie, parce qu'à un moment donné, on a constaté que toute l'attention était tournée seulement vers la victime, mais ces ex-combattants étaient abandonnés. Et donc, la Fondation Kadima a élaboré un projet, et dans le cadre de ce projet, ces ex-combattants ont été accompagnés à travers la création des petites activités rémunératrices des réfugiés, en mettant en place, comme j'étais en train de le dire, une structure qui accompagne, n'est-ce pas, ces ex-combattants. Aujourd'hui, ils sont dans la carrière, dans les villages de Chibamoula, en train de fabriquer les briques. Non seulement ça, mais aussi l'accompagnement des victimes aussi. La Fondation Kadima a accompagné un certain nombre de victimes. À peu près une soixantaine de victimes ont été accompagnées par la Fondation Kadima à travers, bien entendu, sa clinique chez lui. Et donc, nous avons là tout un ensemble d'activités qui ont été menées par la Fondation Kadima dans le cadre du projet de la réinsertion socio-économique des ex-combattants après les événements de triste mémoire des camps de Nassau.
Voilà, on attend bien sûr tout ce qui a été fait.
Alors, nous sommes vers le public. Vous avez, comme on dit, c'est par nos auditeurs. Les auditeurs sont avec nous dans cette salle. On va voir le saint premier en intervenant. Le principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une minute et demie. Soyez assez bref et concis pour dire voilà, vous soulevez la main. On vous donne le micro, vous vous présentez et vous posez la question, vous intervenez. En tout cas, soyez le plus bref. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. On ne sera pas obligé de prendre une heure. On peut commencer dans le public. Les cinq premiers intervenants et vous dites à qui vous vous adressez exactement votre question ou votre préoccupation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est Didier Boniface Mofongala-Monin. Je suis politologue et analyste des questions politiques et sociales qui sont très centrales. J'ai une ou deux questions à poser à monsieur Patrick Rivera. La première, c'est de savoir, monsieur Patrick, depuis que vous avez commencé ces projets, ces différentes interventions, aujourd'hui, vous avez quel sentiment? Est-ce qu'il y avait un sentiment de satisfaction ou un sentiment de non-satisfaction? La deuxième question est celle-ci. D'autant parce que les organisations internationales, les fondations, ceci, cela, qui viennent en appui aux ex-militaires, aussi aux victimes, mettent ces deux catégories de personnes dans un état de détachement, de laxisme. Et ces gens-là ne deviennent pas capables aujourd'hui de produire, ne serait-ce que le bien de consommation locale. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils attendent que des financements, des appuis, des différents dons que vous leur donnez, et ils ne sont pas à même capables de travailler comme à l'époque, parce que à Guinée, à Dubaï, à Misa, ces territoires nous produisaient de maïs, on mangeait des chicou chez nous, au Qatar et à Kanama ici. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne produisent rien. Mais on vous accuse, vous les organisations internationales, d'appuyer ces gens-là en financement au lieu de leur donner des contrats qui peuvent permettre de cultiver et de rendre.
C'est pas la question qui est intéressante. La question est suivie. Merci beaucoup. Alors, une deuxième intervention. Soyez apaisés, s'il vous plaît. On va d'abord prendre les cinq et puis les invités vont réagir aussi rapidement et d'une manière brève pour gagner les temps. Oui.
C'est le maître Alexandre Chamamanga, avocate de la Réunification Centrale et coordonnatrice du Centre culturel de la Genèse. Ma petite première question est adressée à M. Patrick de Liberia et une autre à M. Vincent, conjointement avec l'officier de 21DH. Monsieur Patrick, vous avez cité pas mal de projets que vous avez pu réaliser dans le cadre de diverses conventions, mais moi je les appelle. Le ministère, parce que le sujet est basé plus sur ça. Mais nous sommes au quartier central, nous avons vu comment ça s'est fait une chose. Tous les projets réalisés ont été en faveur des victimes et non des commandants. Je le sais. Parce que comment expliquer que quelqu'un qui est à la recherche, qui la justice recherche cette personne, et comment vous êtes parvenu à sa réception? Vous allez visiter juste un projet basé surtout dans le village du Kamouna-Sabou où il y a eu beaucoup des ex-combattants de Kamouna. Et ma deuxième question, adressée conjointement à M. Vincent et M. Voilà, est de savoir, ils ont dit, la justice traditionnelle, c'est un long processus pour réaliser, il faut la vérité éclate. Nous tous, nous connaissons cette vérité. Quand est-ce que les victimes seront réellement indemnisées? Merci beaucoup.
Merci, merci. Alors, n'oubliez pas aussi d'acclamer hein, pour toutes ces personnes qui ont été. Les micros qui sont dans la salle, s'il vous plaît, soyez encore très bref, oui.
Oui, merci pour la parole. C'est Anastasie Molela, membre du conseil. Avec les ex-combattants du Kamouna, peut-être, je ne sais pas, j'ai aussi des petits soucis. Je ne sais pas, ils ont touché tous les territoires parce que l'histoire de Kamouna-Sabou a été vraiment dans tous les territoires qui étaient touchés. Je ne sais pas, peut-être, ils se sont basés seulement dans quelques territoires.
Et tant qu'on ne se serait pas mis d'accord sur ce qui s'est réellement passé, ça va être difficile de reconstruire tout ce qui s'est passé après. Donc c'est un processus de longue haleine. La CNDH est là-dessus, le CNDH est là, même le gouvernement pour sélectionner les
On n'a pas sélectionné tout le monde. Et il y a quatre critères que je ne pouvais pas citer ici. Mais le plus important, c'est de dire, nous avons, rassurez-vous, le BCNIH, le CNIH, on la liste de toute la paix. Et ils sont prêts à aller même faire. Vous voyez quelqu'un qui hier était dans la milice en train de détruire des choses, qui revient dans la même communauté pour dire, pardonnez-moi, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, et on se rassure que ces gens ne sont pas des auteurs des crimes internationaux, des crimes graves. Je pense que ce projet a permis de le faire. Je pense très rapidement pour finir, je pourrais donner un chiffre hein, pour dire près de 2603 jeunes et femmes impliqués directement ou indirectement dans ce conflit comme miliciens ont été pris en charge dans plus de 7 territoires. Et donc, et quand je dis 7 territoires, c'est aussi bien pour le Kassai que pour le Kassai central. Et nous avons eu à mettre en place des coopératives. C'est vrai que ceux qui sont en ville ne le voient pas parce que le conflit, l'épicentre du conflit, ce n'est pas Kananga. Les gens sont venus d'ailleurs pour travailler ici, donc pour faire ce qu'ils ont fait ici. Donc par rapport à ça, ce que je veux dire, il y a la gouvernance locale dont je n'avais pas parlé. La capacité des gens de réagir après un conflit pareil, je pense que ça mérite beaucoup de travail. Toutes les agences du système des Nations Unies qui sont ici, chacune avec leur mandat, sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. Et je pense que la question qui est sur la je pense que vous étiez en train de dire, il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner des poissons.
Exactement.
Ce qui se passe, je pense qu'il faut tenir compte de la dimension de sauver la vie et de changer la vie. Quand il y a un conflit comme ça, vous êtes sûr qu'il y a des besoins humanitaires. Et les besoins humanitaires, c'est si on n'agit pas dans les secondes qui suivent, il y a des gens qui vont mourir. Soit de faim, soit de maladie, ou des tempérés. Et donc, il y a, dans le système des Nations Unies, vous avez des agences qui ont ce mandat de venir sauver des vies. Mais pendant qu'ils sont en train de sauver des vies, il y a d'autres agences qui travaillent sur le changement de la vie. Et ça, le développement, ça prend du temps. Et donc, rassurez-vous que nous sommes en train de mettre des prémices pour relancer l'économie locale et nous avons la chance de recevoir le grand programme sanitaire du président de la République, le PDL, qui vient aussi avec sa composante de développement des valeurs, des chaînes de valeur, pour appuyer tout ce processus que nous sommes en train de mettre. Donc tous les acteurs sont ensemble.
Merci.
On ne peut jamais dire qu'on fait quelque chose sans le soignant.
Mais dans la question de la réinsertion, il y a le pauvre. Est-ce que ce sont les originaires du milieu? Est-ce qu'ils disent, moi j'étais des Tibaya, j'accepte de venir rester à Kananga, ou on va me réinsérer dans un autre endroit parce que Dieu va m'accepter chez moi? Madame Monique, est-ce que ces personnes sont toutes de la commune de la Nganza qui se retrouvent à Tibaya, où ils sont à l'aise, ou il y en a aussi qui sont venus hein, des autres localités, mais qui ont accepté de rester dans ces milieux où vous les avez placés pour cette stabilité économique?
Merci beaucoup, monsieur. Bien sûr, le projet, nous parlons des ex-combattants. Les ex-combattants, il y a les rapatriés, il y a les retournés, il y a les déplacés internes. Il y a aussi la communauté haute qui se trouve dans ce coin-là qui s'enfuit. Donc, nous appuyons cette équipe-là, des personnes qui composent.
Mais pour ceux qui sont retournés, est-ce qu'il y a une cohabitation facile avec la population haute?
Oui, il y a une cohabitation facile avec la population haute parce que nous intervenons aussi dans la cohabitation pacifique. La Fondation Kadima intervient aussi en ça. En même temps, nous intervenons aussi dans le cadre de la santé. Bien sûr, nous fournissons de la prime en charge de l'insertion socio-économique. Il y a aussi la prime en charge médicale qui intervient là-bas. Il y a aussi la prise en charge psychosociale. Et parmi nous, il y a mes collègues qui interviennent dans la prise en charge psychosociale qui vont aussi intervenir ici avec nous. En plus, la Fondation Kadima participe aussi, intervient aussi dans la cohabitation pacifique dans ces points-là de Chibambula, dans les camps des ex-combattants.
Voilà. Alors, je tourne vers la justice. J'avais aussi cette même question en disant, mais comment les personnes recherchées, mais je ne sais pas qui disait tout à l'heure, nous avons la liste, et ceux qui sont recherchés pour les crimes d'armes. C'est-à-dire que vous arrivez, Maître Vincent, ça commence par vous, vous arrivez dans une localité, vous avez la liste noire. Voilà, c'est vous qui recherchez pour les crimes graves, on ne te réinsère pas, mais en attendant, on sait qu'il est recherché. Mais on sait aussi qu'on sait l'identifier. C'est vrai, l'inquiétude de la plupart des même Maître Alexandre Charles m'a dit la même question. Mais on connaît la personne, elle est là, elle vit avec nous, elle est recherchée pour les crimes. Jusqu'à quand elle va continuer à circuler libre?
Ok, merci. Je crois que tout ne se passe pas ex-libre.
Ça veut dire, pour nous qui n'avons pas
fait la culture, on ne le fait pas de manière active.
c'est un travail méticuleux qui se réalise en amont. Je crois que
si vous dites depuis vous a dit, et même Maître Martin Daé, il y a un critérium défini à l'avance.
Qui est ex-combattant, qui ne l'est pas. C'est de cette manière-là que nous devons travailler. Et deuxième aspect, nous, peut-être au niveau de la CNDH, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous avons mené des enquêtes, c'est-à-dire nous avons récolté des données.
Exact.
En allant pour récolter des données, nous avons des critères. Et c'est sur base de ça que nous récoltons des données qualitatives et quantitatives que nous mettons alors à la disposition du PNUD, du BCNUDH, pour pouvoir s'occuper de cela dans les jours à venir. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième, il y a deux conseils qui sont revenus sur la question des réparations. Je crois que je vais vous faire du scoop. Vous savez, je faisais partie des 17 ou 22 consultants recrutés par le BCNUDH pour mener des enquêtes et comprendre le besoin de la justice de la population. Et lors du dépouillement des données, qu'est-ce qui saute et qui a sauté directement aux yeux? C'est que pour les gens, ils voudraient, dans le cadre des réparations, qu'on vienne avec des grosses sommes d'argent de maison en maison pour donner. Je voudrais à ce stade dire aux gens, dans le cadre de la justice transitionnelle, il ne s'agit pas des réparations individuelles. Ça, c'est à mettre la croix des MON. Il s'agit bel et bien de réparations collectives. Ça, j'insiste, dans le cadre de la justice transitionnelle. Et plus loin encore, lorsque nous avons déjà la commission provinciale de vérité, justice et réconciliation, que nous avons pu accompagner à tous les niveaux possibles, on ne va pas, à Brito ou à Brille Pourpoint, commencer déjà à réparer. Non, il y a un programme, j'insiste, il y a un programme à part des réparations. Ça d'ailleurs c'est un modèle que nous avons partagé, le modèle dupliqué, ce qui s'est produit aussi en Tunisie. Et nous avons partagé récemment l'expérience dans le cadre de la justice transitionnelle. Donc, il y a un programme. Les victimes peuvent juste s'apaiser parce qu'il y a un programme de réparation pour ça. Mais j'insiste, je suis pour, ça c'est mon point de vue. Et d'ailleurs, c'est ce qui est pratiqué sous d'autres yeux. Il s'agit des programmes de réparation qui n'est pas à confondre avec des réparations de
guerre.
Je vais citer.
Terminé pour vous dire
que nous ne faisons pas d'amalgame. Maître Alidor, vous pouvez me suivre parce que lui a compris si souvent des victimes. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le cadre de la justice transitionnelle, nous avons des piliers. Les piliers, ce sont des droits fondamentaux. Nous avons le premier pilier, porte sur les poursuites pénales. Poursuites pénales constituent un mécanisme purement judiciaire. Ça veut dire, même si nous venons avec la justice transitionnelle, sachez très bien que nous, on va poursuivre pénalement, j'insiste, pénalement, ceux qui sont considérés comme auteurs, co-auteurs et complices des crimes graves. Parce que ce sont des crimes qui ont choqué la conscience humaine. Donc, ce n'est pas une question éludée. Dans le cadre de la justice transitionnelle, nous avons des mécanismes judiciaires et des mécanismes non judiciaires. Et parmi les mécanismes judiciaires, nous n'avons que c'est d'ailleurs le mécanisme judiciaire.
Maître Vincent, vous me faites voir que l'émission par nos idées,
je vais vous dire à la présentation.
Une minute, s'il vous plaît.
Alors, les autres mécanismes non judiciaires avec des garanties, parce qu'il faudrait que l'on puisse entreprendre des réformes pompeuses. Pour revenir à la question de notre monsieur journaliste de Tchibala, je vais juste dire que nous, au niveau de la CNDH, nous avons travaillé dans trois territoires qui ont été sélectionnés sur base d'un critère. Nous avons le territoire de Dibaya, à Dibaya, 2-6. Dans le territoire de Luisa, 2-6. C'est le territoire de Katumba, 2-6. Nous étions, d'ailleurs personnellement, avec la bénédiction du PUD, nous étions sur place à Dekesha et nous sommes arrivés à Bakwachenza, parce qu'à Bakwachenza, il y a une forte concentration aussi des ex-miliciens. Et là, nous sommes allés dans le cadre des mécanismes alternatifs de résolution des conflits. Juste pour aider nos frères et sœurs et leur dire, écoutez, tôt c'est tôt, il y a moyen de passer à autre chose. Ça veut dire quoi en d'autres termes? On a promis ce qui a été fait, la construction des mausolées, ça fait partie de ce qu'on appelle travail de mémoire. Mais le travail sera abattu de manière professionnelle, titanesque,
merci,
pour répondre aux besoins.
Merci. Merci, maître. Alors, monsieur Georges, vous avez la parole. Peut-être qu'il a déjà ramassé certaines préoccupations. Alors, on va préparer dans le public le dernier groupe d'intervenants. Malheureusement, souvent avec l'émission, c'est comme ça. Hein. On reste sous la soif. Ça ne va pas être quatre personnes. Les quatre doigts qui sont déjà levés, ce sont les derniers intervenants. Et puis, on va passer à votre chose rapidement, monsieur Georges.
Je peux aller rapidement à la suite de tous mes prédécesseurs. Je dirais qu'à la question posée par la Fondation de la Jeunesse, la justice transitionnelle, c'est vrai, on dit que ça prend du temps, mais ce n'est pas un temps indéfini. Parce que là, nous avons un mécanisme qui a été justement prédécité par la plupart des parties prenantes aux consultations provinciales. On a créé, on a mis sur pied une commission vérité, justice et réconciliation qui a un mandat de 3 ans. Et pendant ces 3 ans, justement, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Là, maintenant, la commission est au niveau des travaux préparatoires qui concernent les infrastructures, cadre organique, cadre stratégique, recrutement, mobilisation des ressources et renforcement des capacités opérationnelles et techniques des commissaires, justement, pour pouvoir identifier la vérité. Il y a des piliers comme la vérité, vous avez dit, la vérité est déjà connue, mais il est question justement qu'on s'accorde tous sur c'est quoi cette vérité. Donc il y a des enquêtes qui vont être déployées sur le terrain dans toute l'étendue de la province. Et puis justement à la fin de tout ce travail, il y aura des recommandations qui seront faites à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des partenaires techniques et financiers, pour pouvoir justement identifier quel type de réparation pourra être justement mise en œuvre. On parlait tout à l'heure de réparation judiciaire, on parlait de réparation non judiciaire. Donc, ça c'est un processus également qui va être mis en œuvre. Mais comme je disais tout à l'heure, on parle de commission vérité, justice et réconciliation et non de réparation. Donc la réparation c'est un programme à part qui va être mise en œuvre à la fin et qui va aussi bénéficier justement des recommandations de cette commission vérité, justice et réconciliation. Donc même si c'est qu'on a l'impression que ça prend du temps, et il est nécessaire de pouvoir prendre ce temps-là, et qui n'est pas un temps indéfini, pour pouvoir justement avoir un bon résultat, et d'avoir des résultats à la va-vite qui vont faire en sorte que les populations, les bénéficiaires, les victimes et même les auteurs ne puissent pas justement avoir
Merci beaucoup. Alors, on va passer au dernier groupe d'intervenants. Ils sont là. Soyez vraiment le plus bref possible pour permettre à ceux qui sont de vous d'intervenir. Et on va venir pour faire le dernier sous les tables. Et aussi, ça sera peut-être 1 minute et demie par intervenant. Et nous allons par là terminer cette émission. On vous écoute. Mais n'oubliez pas toujours de pouvoir acclamer, que ce soit pour les réponses, que ce soit pour les questions. Alors,
merci beaucoup de la parole, cher bureau. Je réponds au nom de Roger Boukali, coordonnateur de la Supire au CGL dans la province de Kasaï Central. Ma préoccupation s'intéresse directement à M. Patrick. Selon moi, je suis en train de voir que la réinsertion qui se fait aujourd'hui, c'est une prime à l'indignité et aussi une motivation aux autres malfaits qui sont encore dans la fosse. Parce que lorsqu'il y a eu des arrestations, ce n'est pas tous les chefs de groupe qui étaient arrêtés. Certains ont été même arrêtés dans cette année de 2023, où nous parlons, soit 2022. Mais aujourd'hui, vous voyez que ceux qui ont commis les actes avant et sont rémunérés. Est-ce qu'ils peuvent se décourager? Soit ils sont motivés à continuer dans ces actes de barbarie. Et la deuxième et dernière préoccupation, c'est pour saluer ce qui a été fait avec les fonds de la MONUSCO, la reconstruction du bâtiment administratif de la commune de Nganza. C'était une bonne chose, on a réhabilité le bâtiment administratif, mais on est parvenu à former les gens, 30 personnes seulement, 30 ex-combattants, pour une durée d'un mois. Dans quel domaine? Dans les domaines de la maçonnerie. Nous sommes en train de nous demander, est-ce qu'un mois suffisait seulement pour que ces gens puissent maîtriser tout ça?
Merci beaucoup, merci. On passe à madame rapidement.
Oui, merci beaucoup de la parole. C'est Josie Bouaboua, je suis une reporter. En fait, nous l'ignorons bien qu'avant ce phénomène, quand on est dans nos villages étaient vraiment désolés. Mais si aujourd'hui, si nous vous disons, par exemple, nous arrivons au village Moïmoussine, là-bas, il n'y a pas de personnes. Alors, je n'aimerais pas savoir, qu'a-t-il vraiment vos projets là pour les villages sans vie?
Merci beaucoup. Quand est-ce que les gens pourront retourner dans leur village? Si on pose la question de cette manière, je crois qu'il y a une autre main derrière Richard qui pourra intervenir. Rapidement, vraiment, il a fait juste 18 secondes et ça, c'est très bien.
Merci beaucoup. C'est Marcel Lamba, membre du Conseil français de la jeunesse. Ma première question s'adresse au représentant des Kadima Foundation.
Allez-y, rapidement.
Je voudrais savoir en termes de pourcentage par rapport au pilier de la justice transitionnelle, est-ce que pouvez-vous nous énumérer sur le pilier des pourcentages des actions que vous avez menées en termes des activités de justice transitionnelle? Merci.
Merci beaucoup. Alors, la prochaine question, de cette manière, c'est très bien.
Merci, c'est Emmanuel Castro-Mandilolo,
du chef-d'État administratif à la CNDS, la tête centrale. Ma préoccupation, c'est directement au team de flux qui est représentant de BCMDH. Je voudrais juste savoir qu'est-ce que le PNUD et le BCMDH entrevoient à ces jours où l'on sait que tout n'a pas été fait et que même dans le processus de justice transitionnelle, la commission provinciale vérité justice et réconciliation patine. Elle peine à mener ses actions concrètement. Qu'est-ce que le PNUD et le BCMDH entrevoient pour la prospérité?
Voilà, on va écouter les deux derniers auditeurs de ce jour. Et nous allons revenir à nos invités pour réagir.
Je suis Grégoire Moulamba, étudiant à la faculté de psychologie à l'Université pédagogique du Canada. Je m'avais dit au représentant de PNUD ici, dès son introduction, il a parlé de beaucoup d'activités qui ont été réalisées. Il a parlé notamment de la justice transitionnelle, réparation et aussi réclamation des droits des personnes arrêtées. Mais pourquoi, si c'est la vie des Canada, nous continuons chaque fois à assister aux manifestations sur les voies publiques? Je suis Nganza, je réclame justice. Je suis Kamaï, je réclame justice. Je suis Nganza, je réclame justice. Pourquoi tout ça? Et la deuxième préoccupation à la Fondation Kadima. Vous avez appris ces gens-là à fabriquer les briques. Pensez-vous que l'apprentissage dans la fabrication des briques était-elle suffisante? Et puis, à Chibamboula, est-ce que les maisons sont construites en briques? Est-ce que c'est vraiment une solution par rapport à ça?
Voilà. On va écouter, comme on a toujours dit, les derniers auditeurs de cet échange.
Oui, merci beaucoup. Je suis Ilunga Beya Modric. J'ai une petite question. Je m'adresse à M. Patrick. En fait, il a cité toute une litanie de projets ici que les Nations Unies ont pu effectuer. Je me suis demandé, parmi tous ces projets énumérés ici, pourquoi il n'y a pas eu des prises en charge psychologiques, soit des victimes, soit des ex-combattants de la milice Kamuina Nsapu? Pourquoi il n'y a pas eu? Parce qu'il y a eu des traumatismes, il y a eu des chocs au niveau de l'esprit. Même maintenant, même, je peux vous citer d'autres cas, il y a des personnes qui sont devenues pour après les conflits. Pourquoi il n'y a pas eu des prises en charge psychologiques?
Il y a eu une prise en charge qui est holistique. Alors, avant peut-être d'apporter la parole à M. Patrick, qui a vraiment eu l'ensemble des interventions, et je me dis. Ça demande encore beaucoup de travail, d'émissions, beaucoup de discussions, beaucoup de sensibilisation pour que ceux qui sont en ville comprennent réellement ce qui se passe à l'arrière-pays autour de cette question. Alors vous avez la parole, on fait le cap de table pour conclure cet échange.
Oui, très rapidement. Je remercie encore une fois tous les intervenants. Je pense que la problématique de la lutte contre l'impunité, ça revient toujours. Mais pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, grâce au dispositif qui a été mis en place, c'est-à-dire l'appui à la justice classique, l'appui à travers la justice transitionnelle. Aujourd'hui, 52% des dossiers du crime grave, crime international, sont en cours de traitement aujourd'hui, là où nous sommes. C'est-à-dire plus d'un dossier sur deux, aujourd'hui, est en cours. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de la campagne de la publication là-dessus. Les juristes sont ici, je les respecte très bien. Il y a tout ce que nous appelons secret d'instruction, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que c'est des choses que vous ne voyez pas quand vous êtes de l'autre côté de la barre. Mais soyez sûr que c'est un travail méthodique qui est en train d'être fait avec la CNDH, vraiment, avec la Fondation Kadima, et qui font des travaux fouillés. Donc on ne porte pas en justice n'importe qui, il faut bien regarder. Je vous ai très bien dit, même des gens dans cette salle auraient pu être facilement embarqués dans cette histoire. Parce que ceux qui enrôlent, les combattants, les miliciens, ils ont leur technique d'enrôler les gens. Et soyez tranquilles, c'est pas évident. Donc on ne peut pas mélanger tout le monde et jeter le bébé avec l'eau de bain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail, il faut faire très attention aussi. On vient pour la porte d'entrée, c'est la consolidation de la paix, ce n'est pas le développement du Kassai. Là, il faut faire très attention. Ce n'est pas des projets pour développer le Kassai. C'est des projets pour relancer la dynamique de la paix sans laquelle on ne peut pas parler du développement. Et vous avez vu que l'implantation du PNUD ici a pris de l'ampleur à partir de 2019-2020. Pourquoi? Parce qu'un gros travail a été fait sur la question de peacekeeping d'abord, c'est-à-dire de restauration d'un climat qui puisse permettre à des acteurs comme nous de venir maintenant consolider cette paix et de lancer la dynamique de développement. Aujourd'hui, nous avons près de 14 secteurs, 14 territoires qui disposent de ce que nous appelons des comités locaux de paix et de développement. Et quand on dit comité local de paix et de développement, c'est des gens, des hommes et des femmes qui ont été formés, qui ont été mis en place, à qui on a appris comment on initie un plan de développement local, comment est-ce qu'on renforce la gouvernance locale. Et tout ça, c'est des gages de la consolidation de la paix. Mais c'est des résultats qui vont venir peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, et que vous allez voir. Donc n'attendez pas des projets IBF, qui sont des projets de 18 mois, de 22 mois, de venir développer le Grand Kassai. Non, nous avons le PDF qui est là, nous avons la Banque mondiale qui est là, nous avons d'autres partenaires qui sont là, qui vont prendre la relève. Moi, je vous donne un simple exemple, et puis je finis par là. Cette expérience que nous avons montrée à travers le PDF, de faire de la réintégration, de remettre les communautés ensemble. Moi, je suis allé à Dibataye. Dibataye était vide, madame. Mais il y a deux ans, on était à Dibataye avec les donateurs, les partenaires qui sont venus depuis New York. Et on a vu le nouveau, le chef Kabila Nsapu. On est assis dans sa cour, on a parlé. Et il a témoigné, c'est sur les réseaux, c'est sur YouTube. Vous allez voir, il a dit grâce au fonds de consolidation de la paix, aujourd'hui, Dibataye est encore fréquentable. C'est le foyer, nous savons tous que Dibataye est le foyer de la crise. Aujourd'hui, madame, vous allez à Dibataye, il y a des champs d'arachide, il y a des champs de haricots, mais il y a 4 ans, 5 ans, c'était pas ça. Et c'est dû au projet de l'IBF. Donc, gardez-vous, dites-vous que les projets de consolidation de la paix ne sont pas des projets de développement. C'est des projets catalytiques, voilà. Et c'est des projets qui doivent être...
Et ça, c'est droit. Je crois que c'est très intéressant. Si le président de le ministre de l'Afrique acclame, c'est parce que c'est intéressant. Je le disais aussi et tout à l'heure, je le pensais d'ailleurs. Et on peut encore revenir vers beaucoup plus d'échanges autour de cette question. Alors, on va passer rapidement à Fondation Fatima, Maître Martin et Madame, en un mot pour réagir, et ça va être aussi comme votre mot de conclusion, parce que vous l'avez dit, vous n'allez pas résoudre tous les problèmes d'un coup avec la Fondation, rapidement.
Très bien. Alors, merci. Je voudrais ici commencer par répondre à la question qui m'a été posée par l'auditeur de tout à l'heure. Il a posé une question qui est celle de savoir est-ce que la fabrication des briques dans les villages de Mambouna suffit. Notre réponse est non. Mais notez que ce projet, c'est un projet à impact visible. Si vous allez là-bas dans les villages de Mambouna, ce n'est pas pour autant dire que ces briques qui sont fabriquées dans ces villages profitent seulement à la population locale. Non. Même ceux qui habitent la ville de Canada se rendent au village de Mambouna pour acheter les briques. Parce qu'ils ont une terre adaptée à la fabrication des briques de bonne qualité. Donc, les soucis que nous avons, c'est d'aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais nous y allons petit à petit. Nous avons commencé par quelque part. Avec le temps, on pourra aller au-delà de ça. Donc, c'est le moins que nous puissions dire.
Voilà. Alors, vous donnez le micro rapidement à Madame Monique Zéba.
Merci beaucoup.
Parce qu'il y a une question, Madame. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des blessures intérieures, la psychologie, voilà. Est-ce que vous avez aussi cette dimension-là que vous abordez rapidement?
Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je viens de le dire tout à l'heure, la clinique juridique Fondation Kadima offre une prise en charge holistique. Dans la prise en charge holistique, il y a une prise en charge médicale. Il y a une prise en charge psychosociale, il y a aussi la réinsertion, que nous venons de le dire là, il y a une prise en charge juridique et judiciaire. C'est que la fondation juridique, Kadima Foundation, offre à ses victimes. Alors, nous ne sommes pas seuls. Il y a une équipe qui constitue la clinique juridique Fondation Kadima, donc plusieurs répondants. Il y a un répondant uniquement pour la prise en charge psychosociale, qui est le psychologue de formation, qui prend vraiment en charge les victimes, et prend en charge le discours social. Je pense que ça existe.
Alors, on va revenir à M. Georges Mata, et Maître Vincent va conclure du côté justice, et nous reviendrons à M. Patrick pour la conclusion globale qui se fixe un peu dans le perspective d'avenir avant de chuter et de terminer cet échange.
Un intervenant a posé la question de savoir pourquoi est-ce que la commission traîne en termes de visibilité. Moi, je dirais qu'il y a un mandat de 3 ans. Le mandat de 3 ans est divisé en 2 parties générales que je peux citer ici, la partie préparatoire et la partie opérationnelle. La partie préparatoire, c'est le temps justement de pouvoir mettre en place tout le mécanisme et qui va se conclure par justement des renforcements des capacités et puis voilà. Et la partie opérationnelle qui est la plus visible,
qui concerne beaucoup plus le recueil de dépositions des victimes, les recherches des enquêtes, les organisations de la conduite des audiences publiques, privées, caméras automatiques, la rédaction de la politique provinciale de réparation et la rédaction du rapport final, qui sera la partie la plus visible des activités justement de la commission. Donc nous, tous acteurs ici présents et même ceux qui ne sont pas là, partenaires techniques financiers, gouvernement, nous travaillons avec la société civile, bien sûr, on a aussi des partenaires locaux qui font un travail vraiment acharné sur le terrain, et même la population. Nous avons la responsabilité justement de pouvoir faire en sorte que le travail de la commission puisse avoir un résultat, et le résultat en faveur justement des personnes victimes de cette crise qui nous a vraiment beaucoup touchés. Donc ça sera en termes de conclusion pour ma part, avant que Patrick et puis donc de dire un appel à tout le monde de pouvoir justement soutenir cet effort en matière de réussite transitionnelle pour faire en sorte que justement nous puissions avoir le résultat escompté. Et puis les résultats sont déjà quand même assez visibles et à travers les témoignages de nos partenaires.
Enlevez votre casquette d'ancien journaliste et allez-y rapidement.
En ce qui concerne la conclusion, je voudrais juste vous dire que la lutte contre l'impunité au Kasaï central est devenue une réalité. Les gens ne se passent pas des fantasmes. Deuxième chose, nous travaillons pour la priorisation des cas emblématiques. Du scoop encore, nous avons à peu près 25 cas emblématiques. Et vous aurez des échos dans les jours à venir. Alors je vais répondre aussi à quelqu'un qui a des manifestations pour public. Pourquoi vous faites mieux, il y a toujours. Je vais vous dire que les projets tels que vous étiez présentés ici ne viennent pas répondre à tous les problèmes de la société. Il y en a d'autres. Il y a d'autres programmes qui viendront, c'est ce que vous devez nécessairement savoir. Oui. Et à ce sujet, pourquoi des manifestations? Mais c'est déjà la démocratie. Moi, j'encourage ceux-là qui devaient manifester parce que ça fait respirer la démocratie dans notre pays. Ce que je veux vous demander, c'est de mettre la main à la pâte pour que nous puissions travailler ensemble et permettre à la Commission provinciale de vérité, justice et réconciliation de travailler comme il se doit pour arriver
merci
à
ce résultat. Voilà, M. Patrick, vous avez l'honneur de pouvoir conclure cet échange et en même temps présenter les perspectives d'avenir, parce qu'on ne va pas rester sur la note des tristesses, mais il faut quand même dire qu'il y a de l'espoir, il y a des grandes choses qui peuvent être faites aussi pour l'avenir de cet espace.
Oui, je pense très rapidement pour les intervenants, que je remercie beaucoup. On dit l'essentiel de ce qu'il faut dire. Et ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes la communauté et la paix, c'est nous-mêmes qui la faisons. Donc ça dépend déjà de nos comportements à nous-mêmes et de comment est-ce que nous relayons les informations. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'engagement politique à travers l'animation de la vie démocratique est quelque chose de très important qu'il faudra qu'on garde. Parce que la paix, quand on la perd, c'est difficile de la retrouver. Donc on est tous ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. C'est fondamental qu'on continue à mobiliser les ressources, ce n'est pas que les ressources financières. Il y a des têtes couronnées ici, il y a des intellectuels de haute facture ici, il y a la communauté aussi, dans la communauté on a beaucoup de personnes. Je pense qu'il faut continuer par mobiliser toutes les ressources dont on a besoin pour l'opérationnalisation effective de cette commission provinciale. Cette commission provinciale qui a un très grand rôle à jouer dans la fédérisation et la durabilité de tout ce qui a atteint jusqu'à présent. Donc on travaille actuellement, le fonds de la consolidation de la paix a même, parce qu'on a eu une mission internationale qui était là.
Merci.
À la suite de cette mission, il y a un financement qui a été lancé, qu'on est en train de mobiliser pour appuyer justement cette commission. Pour finir, je dis, nous sommes en train d'aller vers les élections. Et là aussi, il faudrait qu'on fasse très attention parce que c'est des périodes qui sont très sensibles et qui sont très délicates. Donc j'invite tout le monde ici à vraiment adopter des comportements citoyens, des comportements dignes de promotion de la paix.
Merci.
Qui va nous permettre d'aller, et la communauté internationale est derrière nous, nous sommes en train de mobiliser aussi des fonds pour ça, pour pouvoir rassurer qu'après les élections, on aura un Kasaï pacifique et paix pour le développement.
Merci. Merci beaucoup à tous et merci à tous les groupes.
Cette émission, parole aux auditeurs. Merci à Alain Loïc qui était à la mise en œuvre de Richard Junior Kongoumé, François Kadimar, était à la réalisation. Jonathan Fonani était à la prise de vue et la gestion des plateformes digitales. Grâce à votre moyen régie. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver dans cette salle. Mais n'oubliez pas que vous allez réécouter cette émission et la télécharger sur www.radiotopie.net. Merci à tous nos invités et merci à la ville de Kananga. Au revoir.